Messieurs, il est 19h, on est évidemment sur l'autre radio et exceptionnellement, on est encore sur Sport Épique.
Ouais, c'est
C'est
dingue.
encore Noël,
Mais
toujours
qu'est-ce qui
Noël.
se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais
Mais
c'est Noël, c'est Noël,
oui!
c'est dingue. On a une prolongation, à
C'est
défaut d'une
génial.
prolongation de contrat, on a une prolongation d'émission. C'est
Ah ouais.
formidable. On va pouvoir encore parler de plein de choses en espérant, et puis bien sûr, ne pas vous lasser, messieurs, dames. Il nous reste plein de choses parce que cette fin d'année, évidemment, l'heure des bilans, nous l'avons faite ce matin pour notre émission hebdomadaire. Mais bien sûr, il y a d'autres choses à dire, comme le rugby, messieurs. Le rugby qui est peut-être dans son renouveau sur l'ère Galtier. Qu'est-ce que. Alors, moi, j'aurais peut-être un petit bémol à vous dire, mais on va peut-être parler d'abord du positif. Oui, c'est une belle équipe. Oui, on a fait un beau parcours dans le tournoi Destination. Est-ce qu'on va vers du nouveau, Fred?
On a progressé de manière phénoménale.
Oui.
On a progressé à tous les niveaux, défense, occupation du terrain, performance physique, joie de jouer, joie de vivre. On sent bien que Galtier, il a un souffle, enfin, je dirais, il a vraiment insufflé vraiment un élan nouveau, un souffle nouveau pour cette équipe. Et ça fait du bien parce qu'on sortait d'années tristes. Qui était vraiment incarné par notre célèbre capitaine, qui était triste à mourir, le pauvre, il perdait ses moyens avant
Mirabeau.
d'entrer sur le terrain. Et là, ça y est, on est reparti sur un nouveau cycle, un peu de fraîcheur et une équipe qui fait plaisir à voir. Donc c'est très très bien et ça fait beaucoup de bien, ouais.
Heureux, le Fred. C'était toi, Gilbo, ou c'est moi?
Vas-y, vas-y, Ben.
Donc, évidemment, hein, même analyse que toi, forcément, Fred. Est-ce que Galtier a une touche magique où il s'est appuyé comme Deschamps peut le faire en football? Ça, on ne sait pas. Ce qu'il apporte de différent par rapport à Deschamps, c'est qu'en plus, Galtier fait jouer son équipe, ce qui
Ouais.
est quand même pas rien, parce qu'on s'est quand même plutôt ennuyé pendant. Mais je vais au-delà de l'ère qui vient de se terminer. On s'ennuie quand même depuis très, très longtemps dans le rugby français. Chaque fois qu'on a essayé de mettre une petite dose de jeu, comme au départ de Noves, comme au départ de le prédécesseur de Noves, il y avait eu un moment aussi très intéressant avant de revenir.
Il y a vraiment
Ouais, Thomas, ouais,
Ouais, tout à
Marc
fait, au début
Lévron.
de l'événement. Avant de revenir aux fondamentaux, à savoir on rentre dedans et ainsi de suite, parce qu'on a perdu quelques matchs en essayant de jouer à la française. C'est vrai que Galtier, pour l'instant, ancien numéro 9, rappelons-le, donc forcément, ça donne quelque chose de plus à son jeu. Pour l'instant, il insuffle ça. Pour l'instant, la victoire est avec lui. Donc, évidemment, la Fédé ne l'emmerde pas, la Ligue ne l'emmerde pas. Mais ce qui vient de se
Journaliste,
passer pour le
l'emmerde.
tournoi Destination, où à l'arrivée, on a perdu, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, on a perdu. Et ce, pour pas grand-chose. Est-ce qu'on n'est pas retombé dans la fameuse défaite encourageante? Moi, je voulais pas, parce que le dernier match de l'équipe de France, ou c'est l'avant-dernier, on le perd. Et moi, donc match
Défense.
formidable, mais c'est vrai qu'on le perd le match. Et ben, à ce moment-là, on nous ressort le concept de défaite encourageante. Pour moi, ça n'existe pas. Il y a des spirales de victoire et il y a des spirales de défaite. Tu parlais de Guillaume Guirado. Guillaume Guirado, je ne remets pas en cause du tout son niveau. Bravo à lui, c'est un grand champion. Mais dans une spirale de défaite, tu perds. Et dans une spirale de victoire, tu gagnes. Et là, notre spirale de victoire, elle est brisée, malheureusement. Ouais, Fred.
Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que on était bien reparti, on a eu une défaite, et derrière on enchaîne quand même, on enchaîne les victoires, on reste sur vraiment quelque chose de positif. Donc franchement, je crois qu'il a brisé le mauvais sort, Galtier, et c'était un joueur très technique, très intelligent, et c'est aussi un technicien très intelligent en tant qu'encadrant là, et franchement, ça fait plaisir à voir parce que il mobilise son groupe. Il a élargi le groupe et tu sens tous les gars concernés. Et justement, il y a des changements, tu vois pas le niveau baisser. Tu as vraiment l'impression que c'est un groupe qu'il est en train de former, non pas une somme d'individualités où ça repose sur quelques joueurs. Donc ça, c'est très très intéressant pour l'avenir.
Gilbo.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait jouer enfin, le French Flair à la française, quoi. Il tape sur les points, il fait les points forts. Ça rejoint un peu le débat qu'on a eu ce matin. Et c'est par rapport à Simon, il fait vraiment les points forts de l'équipe de France, c'est-à-dire le jeu. Il y a quand même des mecs qui cavalent derrière, des trois quarts, des ailiers. Et ça, c'est hyper intéressant de travailler là-dessus. Parce que Laporte voulait nous faire jouer avec des armoires à glace devant, on voulait imiter un peu l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, et ainsi de suite. Ben, on joue à la française, voilà, on est ce qu'on est, il faut l'assumer, et on y va, et c'est très agréable.
Lionel ?
Oui, c'est très agréable, une équipe homogène, avec toujours un bon mental, malgré les jeunes. Ouais, je voulais parler un petit peu des nouvelles têtes. Il fait, semble-t-il, des bons choix au bon moment, enfin, bah, bon coaching, quoi. Franchement, oui, il y a du nouveau d'intéressant, beaucoup d'intéressant.
Voilà, mais alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, forcément. Mais c'est pas de la chance, hein. On va pas mettre ça sur le dos de la chance, mais on a gagné. Donc, gagner, c'est ce qu'on disait un petit peu ce matin, gagner vient accréditer tout ce que vous avez fait sur vos choix. Tant mieux pour Galtier, ce n'est absolument pas de la chance, c'est du très très bon boulot, bravo à lui. En football, pendant 6-7 ans, ça a été l'hégémonie de l'Espagne, l'hégémonie du Barça et de son jeu. Tout le monde a voulu jouer de la même manière parce que ça fonctionnait. À partir du moment où ça ne fonctionne plus, on est revenu à du jeu plus défensif, plus verrouillé, et on repart sur une ère encore différente du football. Donc là, Galtier est en train de surfer sur cette vague de victoire. Tant mieux pour lui. J'espère qu'on va en rester là parce que moi non plus, je ne veux plus m'ennuyer devant la télé. Mais j'ai très peur des premières défaites et de ces fameuses défaites encourageantes qui vont nous plomber l'état d'esprit en tout cas. Et on va revenir aux soi-disant vraies valeurs du rugby. Fred.
Alors, donc, je ne suis pas trop d'accord avec ton analyse sur l'Espagne. C'est qu'en fait, on n'est pas revenu à un football défensif, on est revenu à un football beaucoup plus vertical. C'est-à-dire qu'on va jouer sur d'autres qualités, sur les qualités essentiellement physiques des joueurs, d'explosivité, et d'aller le plus rapidement possible au but. C'est Liverpool qui l'incarne le mieux. On est passé d'un système de possession avec Guardiola. Et pour couper ça, eh ben, Klopp, la solution de Klopp, ça a été d'aller tout droit. On va très rapidement devant, on se projette. Pour ça, il faut d'autres types de joueurs. Il faut des joueurs très forts athlétiquement et de moins bons footballeurs, entre guillemets. Le joueur moderne, il est moins bon au niveau football. Par contre, c'est un athlète. Et la meilleure, celui qui l'incarne le mieux en France, c'est Mbappé. Donc, il va très, très vite. Il a une super qualité. Alors, attention, il n'a pas de pied gauche non plus. Hein, c'est un vrai joueur. Non. Mais sa domination, elle repose sur son explosivité, sur son physique. Donc, ça, c'est une chose. Sur le rugby… Tu vois, Galtier, il est beaucoup plus complexe que ça parce que Galtier, c'est à la fois quelqu'un technique, c'est un meneur d'hommes et c'est quelqu'un, je trouve, quand même foncièrement intelligent. C'est que il a un gros défaut, il a le défaut des relations humaines. C'est un gars qui prend pas de pincettes, il dit les choses franchement et ça peut déplaire. Et donc, où il a été suffisamment intelligent, ou en tout cas la fédé au choix, c'est qu'il est avec lui, c'est un binôme hein, parce qu'il tire pas la couverture à lui tout seul. Il y a Ibanez. Et je pense qu'Imanès est très fort justement lui dans la gestion des joueurs, des égos, et il vient lisser un peu le côté brut de décoffrage de Galtier.
Et je trouve que
c'est quelque chose de très très bien, c'est que ces deux gars de la même génération, ces deux gars qui se connaissent depuis très longtemps, qui ont eu à gérer, parce qu'Imanès était le capitaine de Galtier quand ils étaient joueurs. Et je pense qu'il y en a un qui reconnaît facilement toutes les qualités techniques et puis… l'aura, la vision de Galtier, mais il faut, à côté de ça, il faut savoir emmailloter tout ça, gérer tout ça. Et là, la Fédé a été très, très bonne par rapport à ça en mettant Ibanez.
C'est beau ?
Non, je voulais dire, Ibanez, c'est surtout plus politique, parce que rugby, on sait bien qu'il y a la Ligue, il y a machin, grande famille, là, et là, le mec, il fait de la politique.
Mais ce qui est... Et dans la gestion des joueurs, il est plus fort, je pense.
Tu le vois comme ça. En tout cas, moi, je suis très content parce que je me suis repassionné enfin pour ce sport. Ça faisait quand même bien longtemps. Donc, tant mieux. On est tous gagnants. Est-ce que, Émilie, on passe au handball féminin un petit peu puisque, malheureusement, sur Sport Épique, les auditeurs nous font un petit peu le reproche. Nous ne sommes pas assez ancrés féminins. Donc, on sort du championnat d'Europe, handball femme. J'ai regardé la finale, figurez-vous. Et ben, je me suis ennuyé. Voilà, je me suis ennuyé. Donc, ça, je ne vais pas défendre forcément.
Je n'ai pas regardé, je ne me suis pas ennuyé.
C'est Fred.
Ah, moi, j'ai regardé, je ne me suis pas ennuyé. J'ai trouvé ça assez chouette. J'aime beaucoup moi le handball féminin et je trouve justement l'équipe de France très intéressante parce qu'elle a beaucoup de potentiel et je trouve qu'elles ont un coach qui est assez formidable parce que c'est un gars qui a su se remettre complètement en question dans sa gestion de l'effectif, dans sa gestion d'équipe et dans son comportement. Et ça, je pense que c'est assez rare dans le sport de très haut niveau d'avoir des coachs qui apprennent de leurs erreurs et qui modifient leur comportement pour s'adapter à la génération, peut-être au groupe qu'il a entre les mains. Et je trouve ça assez chouette. Et ça s'est vu encore sur la finale où, à peu de choses près, la France a failli revenir dans le match alors qu'elle était un petit peu à la dérive. Et le coach Crumbles, qui il y a 15 ans était réputé pour ses colères, pour son, eh bien il était super zen en les encourageant, en leur disant que bah voilà, on allait revenir, fallait faire tourner la balle. Et j'ai trouvé ça assez chouette parce que les filles ont vraiment, ont cru jusqu'au bout, sont bien remontées, sont bien revenues dans la partie. Et franchement, c'est super encourageant. Donc moi je miserais une petite pièce sur l'équipe de France aux Jeux Olympiques.
Ouais, ça va être à toi la parole, Gilbert. Moi j'y crois pas, hein, Fred. Moi, j'y crois pas. La fameuse expression, les expressions, on en fait ce qu'on en veut, mais chasse le naturel, il revient au galop. Moi, je ne peux pas croire que d'un fou furieux, on en fasse un sage qui écoute ses joueuses. Crumbles, comme tu le disais très bien, c'était un mec sanguin, c'était un mec vraiment qui donnait de la voix, qui pétait des plombs et tout ce que tu veux. Et ben, t'en fais pas un sage comme ça. Ou alors il shootait, j'en sais rien. Mais moi, ça me changer de personnalité, ça me semble complètement, c'est pas possible. Gilbert.
On pourrait peut-être le mettre au foot féminin, à l'équipe de France de foot féminin. Pourrait peut-être
ouais. Ouais, il y a deux, trois trucs à changer apparemment.
Bah ouais, ça pourrait aider. Fred.
Non, mais c'est un gars qui a super progressé. Faut pas oublier qu'il était mis au placard, hein, Crumbles.
Mais Fred, qu'il ait superbement progressé, je suis d'accord avec toi, on est tous d'accord avec toi. Dis-moi comment, c'est pas possible. D'un péteur de plomb, tu vas pas en faire un mec sage. Tu vois bien, Klopp, tu le vois bien sur le banc de Liverpool comme moi. Le mec, il porte ses joueurs. Il est avec eux à chaque action, il est avec ses joueurs. Tu vois d'autres entraîneurs, ils sont sur le banc, ils attendent que ça se passe, ils disent rien pendant un match. Putain, tu peux pas changer ça quand même.
Si. Si, parce que attention, hein, il laisse pas faire, et puis non, il les encourage et tout. Mais au niveau coaching, faudrait revoir des photos d'il y a 20 ans et puis maintenant, c'est assez flagrant. Et donc, faudrait demander à des techniciens de handball. Moi, j'ai trouvé ça assez chouette et son coaching était très intéressant, très très intéressant, franchement. Et chapeau, parce que effectivement, il doit prendre sur lui malgré tout. Et moi, je trouve ça assez sympa. Donc toi, qui connais un grand coach mayennais de handball. Oui. Ça serait sympa de discuter avec lui de cette évolution en termes de gestion de groupe.
Mais comme quoi, tu vois, Ben, les gens qui ont du mal à gérer leurs émotions, ça peut évoluer, tu vois.
Ouais, justement, Gilbert, évidemment, on n'est pas forcément là pour parler de nous, mais moi qui suis un péteur de plomb connu un petit peu partout, mais sauf sur un terrain de foot pour le coup, eh ben, je ne peux pas changer. Je vois très bien que ça monte en moi et que je vais exploser quand quelqu'un met un as au lieu de mettre le roi au jeu de cartes. Et donc là, c'est pareil. Moi, Crumbles, je le vois sur le banc, c'était dimanche dernier, je le vois sur le banc et le mec, on est à moins 4. Ça panique pas, on revient à plus 1, ça panique pas, on se refait passer devant, on perd, ça panique pas, ça pète pas des plombs et machin. Putain, mais t'as vécu toute la palette des émotions en l'espace d'une demi-heure, parce que la deuxième mi-temps a été extraordinaire. On a vécu toutes les émotions et le mec, je vous jure que moi j'ai l'impression qu'il est shooté, le gars. Bien sûr, j'exagère, hein, mais moi, il faudrait me piquer pour devenir à ce point-là stoïcien. Quand à la base, je suis un mec sanguin. Ouais, mon frère.
Disons qu'il a 20 ans de plus que toi, donc on te verra dans 20 ans.
Ouais.
il a mis 55 ans avant de réussir à se canaliser un peu. Hein, donc,
Sapiens, j'ai envie de parler. Tiens, tu parlais du coaching. Là. On est à moins 4 à la mi-temps et ça change de gardienne. Donc, t'as une super gardienne en première. Enfin, elle fait le job, mais elle est quand même à moins 4. Et en deuxième, on te sort Cléopâtre d'Arleux qui te fait… Alors, pour le coup, j'ai regardé avec la deuxième. Mais c'était extraordinaire. C'était extraordinaire ce qu'elle sortait. Je suis malheureux qu'ils aient perdu pour elle parce qu'elle a été extraordinaire. Alors, pourquoi elle ne joue pas le début? Pourquoi ça change les postes de gardien, Fred?
Parce que Leno, c'est la meilleure gardienne du monde. Donc, c'est ça le souci. C'est que je pense que s'il est resté zen, Crumbles, c'est parce que je pense qu'il doit se sentir aussi en partie responsable de la défaite. C'est que c'est… Alors, c'est mais s'il fait au fond de son idée, je pense qu'au bout de 10 minutes, il sort Leno, qui n'est pas du tout dans le match. parce que la gardienne en face, norvégienne, elle sort tout ce qu'elle veut sur la première mi-temps, et alors que Leno est pas dedans. Alors Leno, elle sauve la face en fin de première, elle en sort deux ou trois, mais elle fait deux arrêts, quoi. Et je pense que c'était, comme c'est la meilleure gardienne du monde, il la préserve, et pour préserver les égos, il met Cléopâtre Darleux sur la deuxième mi-temps, mais Darleux, elle fait un tournoi fabuleux. Elle fait un tournoi fabuleux, et je pense que s'il la fait rentrer bien plus tôt, l'équipe de France, elle gagne la finale. Et je pense que toutes les Françaises le savent. Alors après, je vais finir quand même. Après, les Norvégiennes avaient commencé à prendre le dessus sur Darleux sur les cinq dernières minutes où elle faisait moins d'arrêts. Mais effectivement, elle a eu 20 minutes de folie. Les 20 minutes où elle rentre en début de deuxième, elle fait ce qu'elle veut, quoi.
Ah ouais, ce qu'elle veut. Et tu dis moins d'arrêts, Fred, ne minimisons surtout pas son exploit, parce que faire moins d'arrêts au hand, c'est normal. Hein. Les stats, Émilie, c'est quoi à peu près pour une gardienne? Les stats, quand tu fais un très très bon match, je crois que tu es à 30% d'arrêts.
Ouais, 35%, ouais.
35%. Et bien là, elle était à 60% d'arrêt à la 20e minute. C'est un truc de barge. Elle te sortait quasi tout. Ouais, Gilbot.
Ouais, concernant Cléopâtre Darleux, je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Elle a vraiment été excellente.
je hurle de rire, mon Gilbert. Oui, Fred.
Ceci étant, c'est une gardienne géniale, hein, qui revient de grossesse, qui a été absente à un long moment, et c'est son grand retour vraiment au premier plan. Et on a cette chance en France, c'est qu'on a trois gardiennes, hein, puisqu'il y avait Glauser qui était remplaçante également, qui sont vraiment d'un super niveau. Donc, on a vraiment une équipe, il y a vraiment un très, très fort potentiel.
Ouais, c'était beau à voir, mais je vous dis, moi, alors après, là, j'oublie la gardienne, parce que la gardienne, je l'ai trouvée extraordinaire, mais sur le reste de l'équipe, je vois un beau match, j'ai rien à dire, je vois une belle deuxième mi-temps, mais j'arrive pas à m'enflammer comme je m'enflamme pour les hommes. Alors, je suis peut-être enfermé, hein, dans mon esprit masculin, mais les hommes, je trouve que, alors sans mauvais jeu de mots, hein, mais je trouve que ça pénètre beaucoup plus fort dans les défenses, je trouve qu'il y a beaucoup plus l'aspect physique, et on me fait croire que le sport féminin, c'est tout autre chose que ça, justement, elle dépasse la dimension physique pour aller exclusivement sur la dimension technique et tactique. Et ben, je ne l'ai pas forcément trouvé. Il y a très peu de buts, grâce aux gardiennes, bien sûr, bravo à elles. Mais toujours est-il que les situations de frappe, elles ne sont pas si fréquentes que ça. Donc, ça veut dire que les combinaisons, elles ne sont pas forcément au point. Ou alors, les défenses sont magiques. Fred.
Ouais, mais c'est, si tu veux, si tu prends l'équipe de France masculine, on reste sur deux années dégueulasses où on s'ennuie, il n'y a pas de fond de jeu. Ce qui a coûté à place de Dinard, hein. Mais pas de fond de jeu, on voyait des remontées de balles à deux à l'heure, et puis des gars qui prenaient des initiatives personnelles tout le temps. Bah là, il y a du jeu, il y a eu des modifications, il y a eu de la tactique, il y a eu de la défense 6-0, 5-1. Il y avait quelque chose à voir. Et on a vu justement l'impact de l'entraîneur, du coach sur la physionomie du match. Donc ça, je trouve ça super intéressant. De ce point de vue-là, le sport féminin est ultra intéressant. Alors, il y a moins de prédominance effectivement de l'aspect physique. Et puis, on voit aussi des gabarits différents. On voyait dans les Norvégiennes, là, on voyait quelques joueuses qui, en un contre un, étaient phénoménales sur les appuis. Bon, c'est assez sympa, hein, ça vaut le coup d'œil.
Ah, c'est bien, j'ai l'impression d'écouter Nadal en interview. C'est bravo la langue de bois, mon frère.
Non, tu sais bien que t'as Rodge, là.
t'as dit toutes les banalités qu'on pouvait dire sur le sport féminin.
Non, c'est pas vrai, parce que…
C'est exactement ça, c'est le discours policé qu'on nous apprend aujourd'hui.
Non, parce
il faut être gentil avec les Noirs, avec les femmes, avec les machins, avec les trucs, avec les choses. Voilà.
Les petits.
Et si tu sors du cadre, t'es un mauvais garçon. Et voilà, donc ok, hein, j'admets, pas de souci.
Non, c'est une équipe que j'apprécie.
D'accord. Ouais. On enchaîne, messieurs, avec le différé, le problème du différé. Je parle ici de Maradona, par exemple, qui est mort un mercredi, et Stade 2, c'est le dimanche. On connaît assez le problème, nous aussi, sur Sport Epic, où souvent on enregistre le jeudi pour passer le dimanche matin. Et oui, vous apprenez peut-être qu'on n'est pas toujours en direct. Quand vous parlez de Maradona le dimanche, ben vous êtes complètement ringard, parce que tout simplement, tout a été dit, toute la rétrospective a été faite, toutes les banalités ont été dites sur la main de Dieu, sur machin, sur truc, sur chose, et ça n'a plus aucun intérêt de continuer. Est-ce que le différé, est-ce que le passé a posteriori vaut quelque chose? Fred et Lionel.
Ouais, ça vaut quelque chose si on creuse plus, ça te laisse aussi du temps pour pas être uniquement dans l'émotion, mais pour approfondir le thème. Donc, encore une fois, c'est un problème de journaliste et puis d'angle, d'approche du phénomène. Après, tu prends un cas bien précis, effectivement, Maradona, tu perds le côté lacrymal en intervenant 3-4 jours après. Mais franchement, d'un point de vue journalistique, ça te permet aussi de vraiment d'aller beaucoup plus loin, quoi.
Lionel ?
Oui, d'ailleurs, tu parles de Stade 2. De toute façon, Stade 2 ne pouvait pas faire autre chose que faire un gros placard sur Maradona, même si c'était que le dimanche. Mais c'était quand même intéressant, parce que comme dit Fred, moi j'ai appris des choses sur les différents documentaires qui étaient un peu plus approfondis sur Maradona. Pas toi, Ben ?
Non, aucunement. Aucunement. J'ai revu exactement la même chose. On a redit exactement les mêmes banalités, que dans le même match, on a le génie et le diable, on a le nani, le nana. Ce qu'on a fait nous aussi sur Sport Épique, il faut être honnête, on a dit les mêmes choses que sur les autres chaînes. On n'a rien inventé non plus. On a rendu simplement un hommage à ce personnage spécial. Et je fais un parallèle avec l'histoire de France. Je fais le parallèle avec De Gaulle. Évidemment, là, ça a été encore l'anniversaire de sa mort. On a eu tout sur De Gaulle et malheureusement, le film qui était fait spécialement pour ça vient après tous les documentaires. Et ben, ce film, je l'ai regardé, ben, malheureusement, tu sais tout, on sait déjà tout. Donc, ça arrive trop tard. Il y a un moment, il faut savoir dire stop, on a traité le sujet, c'est fini, passons à autre chose. Maradona, vous l'avez très bien traité, messieurs, et ben, nous, on va parler d'autre chose. Et on est les premiers coupables puisque c'est nous qui avons fait le sujet aussi le dimanche matin alors qu'il était mort le mercredi. C'est Gilbo et Fred derrière.
Bah, nous, on l'a traité un peu différemment.
Ouais, ouais.
On était comme les seuls à avoir critiqué Maradona, tel comme le seul, quasiment. Et non, mais le Stade 2, c'est du magazine. C'est du magazine. C'est pas de l'actualité. C'est différent.
D'accord.
C'est différent. Moi, j'aime bien aussi voir, par exemple, l'équipe magazine ou voir parler des trucs avec du recul, on approfondit. Et après, même, ce qui est très intéressant, c'est l'histoire du sport aussi. C'est assez sympa. Parce que sur l'actualité, en fait, on s'aperçoit, comme pour l'histoire, qu'on ne comprend pas les choses. On le comprend plus tard, avec du recul.
Avec du recul, tout à fait.
Mieux on le comprend.
Oui, mais je ne suis pas sûr que 4 jours, on peut parler de recul au bout de 4 jours. Donc moi je vous dis je trouve qu'on se répète beaucoup, Fred.
Ah, je suis assez d'accord avec Gilles. Nous on a un bon exemple, c'est qu'on a traité 3 jours après, mais on l'a traité de manière contradictoire. On avait un contradicteur qui lui contestait un peu, hein, en l'occurrence toi Benoît, contestait un peu l'aura du joueur et tout, ça c'était intéressant. On l'a un petit peu vu dans les médias avec l'intervention de quelques entraîneurs type Gourcuff, etc., qui se sont exprimés. Et c'est vrai que le différé ou le a posteriori permet ça aussi, de dire bah effectivement, on peut reconnaître le caractère exceptionnel de certains êtres ou certains sportifs, etc., mais aussi apporter une touche différente. Donc ça c'est le gros avantage, quoi.
Par contre, revoir des matchs…
Ah, ça, là, c'est différent.
Là, c'est vrai que si tu n'as pas l'excitation du direct, tu connais le score. Même les grands matchs, c'est vraiment plus compliqué.
Bien sûr, il manque quelque chose.
Même mais là, si on savait que Maradona
était mort. Comme un fait exprès, j'avais vu le reportage, l'excellent reportage de Canal+, la veille de sa mort. Alors j'étais tombé dessus, je vois la veille de sa mort. Et ensuite, pendant une semaine, je n'ai que du radotage de tout ce que je savais déjà. Et les gens qui pleurent, et les gens qui machin, et les gens qui chotent. Je suis pas intéressé par ça, moi. Alors,
c'est une histoire qui ne te plaît pas. Mais on adore, nous, c'est humain, se raconter toujours la même histoire. D'ailleurs, les enfants, ils adorent toujours qu'on leur raconte la même histoire. Donc,
c'est vrai.
Moi, Maradona, je connais par cœur, mais j'avais acheté le France Foot. Je vais acheter le SoFoot, et puis je vais picorer 2-3 trucs qui vont me… Tu vois, voilà.
Mais bis repetita non placent, disaient les Latins. Donc, les choses qui se répètent ne plaisent pas. Donc,
on avait compris.
Mon Fred, pour finir sur le sujet.
Non, je voulais dire, ça permet aussi d'ouvrir, tu parlais des enfants, on répète, etc. Ça permet aussi d'ouvrir sur d'autres grands champions, de faire découvrir une génération différente, d'approfondir aussi sur, on a reparlé de Burruchaga, etc., sur des joueurs importants et pour, qui nous permettent d'aller au-delà du seul joueur, du simple joueur, du joueur exceptionnel qui était Maradona, mais aussi d'approfondir, quoi.
Ouais, pour les enfants, c'était sympa pour les enfants, tu vois.
C'est vrai, c'est vrai. Une année de Covid, messieurs, on est obligé d'en parler, bien sûr, hein, même si c'est vrai qu'on vous rabat les oreilles aussi avec ça, forcément. Une année de Covid, quels sont les enseignements que le sport peut en tirer ou en a déjà tiré? Quels sont les changements majeurs qui ont eu lieu? Quelles sont les réussites? On en a déjà un petit peu parlé ce matin. Les échecs, les erreurs, qu'est-ce que ça a fait, ce Covid? Est-ce qu'il y a des sportifs qui sont passés complètement, du coup, à côté d'un grand moment de gloire, où justement, certains, ce Covid, ça les a aidés à passer un petit moment difficile et à travailler différemment? Qu'est-ce que ça a pu changer pour vous, Fred?
Pour les sportifs, les principaux touchés, c'est tous ceux qui s'étaient préparés pour les Jeux Olympiques. Donc avec des fortunes diverses, hein, parce qu'un gars comme Riner, ça va lui servir de pouvoir être décalé d'un an, il va pouvoir fondre un peu plus doucement et puis se remettre en forme, donc pour lui ça a été un gros plus. Pour certains athlètes comme Lavillenie, bah, ça oblige à poursuivre encore un an. Pour des athlètes comme Duplantis, on en parlait tout à l'heure, qui était vraiment au perché, c'est le cas de le dire, bien au-dessus des autres, peut-être que dans un an il n'aura pas la même forme ou la même domination. Donc, pour tous ces gens-là, ça, c'est compliqué à gérer, quoi.
Ouais, pour Duplantis, tu nous tends la perche, là. Gilbo. Bon.
Non, bah, principalement, le problème, c'est que, bah, voilà, maintenant, avec le Covid, on ne peut plus être ensemble. Donc, voilà, bah, le sport, bah, c'est le public. On s'aperçoit que le sport sans public, ce n'est pas le sport habituel. Et c'est très problématique quand même en tant que spectateur.
Donc c'est vrai, Gilbo, on en a parlé un petit peu ce matin, je te laisse la parole, Lionel, après, de ce problème de sport qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas réussi à s'adapter. C'est vrai qu'on s'est ennuyé à Roland-Garros, c'est vrai qu'on a passé un Tour de France plutôt correct. Les matchs de foot, on nous fait croire à une ambiance, ils font ça extrêmement bien, on a l'impression qu'il y a de l'ambiance dans les stades parce qu'on nous met une fausse ambiance. Ben, nous, devant notre télé, ça passe, mais c'est vrai. Alors, des mecs comme toi, pas comme moi, parce que moi, je suis pas stade. Mais toi, je sais que tu es très stade. Je sais que tu aimes bien être spectateur dans le stade. Et ben, forcément, à tous ces gens-là, ça manque. Et j'imagine qu'un sang et or, ben, ça lui manque d'être à Bollard. J'imagine que pour eux, c'est catastrophique. Lionel.
Bon, bah, écoute, tu as tout dit. Hein. Je voulais parler également du fait que quand il y a de l'intérêt financier, les événements se font quand même. Avec plus ou moins de réussite, parce qu'effectivement là on se demandait s'il allait y avoir du foot, s'il allait y avoir du cyclisme, etc. Tout est fait, tout ce qui est avec intérêt financier a été fait, et on s'y fait en plus, hein. On regarde maintenant les matchs en spectateur, on vibre presque, alors que ça nous semblait totalement insensé. Je ne vais pas le regretter, j'espère que ça va se terminer rapidement. Mais ça se fait parce que le spectacle est encore là. Alors le tennis, j'ai bien compris que c'était pas le cas, mais autrement on y arrive. Hier même avec au handball, il y avait 30 spectateurs sur les gradins. Bah, on les entendait. Ça pouvait presque suffire.
Mais tout à fait, Lionel, ça va être Fred puis Gilbo. Tu as tout à fait raison, Lionel, quand tu dis qu'on s'adapte. Et une fois de plus, je parlerai peut-être de mon concept préféré, à savoir le darwinisme de l'homme est extraordinaire. Et je suis persuadé que on va tous devoir s'adapter à ces mesures sanitaires qui vont durer dans le temps. Il ne faut pas se leurrer. Et donc, il va falloir se réinventer complètement sportivement. Et je suis sûr que les générations qui vont nous suivre vont être prêtes à ne pas aller au stade et regarder comme nous devant la téloche des fausses ambiances, que ça leur ira très bien. Fred.
Ouais, alors après, faut pas que ça dure trop longtemps là pour cette génération là quand même, parce qu'on le voit déjà dans le football où l'annonceur qui devait diffuser tous les matchs, bah comme il y a personne dans les stades et tout, ça tombe. Les recettes pour les clubs ne tombent plus, donc ils sont déjà en train de prévoir le mercato hivernal pour éponger les dettes. On a Lille qui se retrouvait, qui a failli faire une banqueroute au mois de décembre. Ça devient très compliqué. Et je pense aussi aux tous les petits clubs qui fonctionnent avec leurs éducateurs, qui peuvent vivre parce qu'ils donnent les cours de tennis particuliers ou des choses comme ça. Ça, il n'y a plus. Je pense que ça, pour eux, il va être temps qu'on retrouve une situation un peu plus normale, parce qu'autrement, il y en a beaucoup qui vont malheureusement disparaître.
Mais tu vas te réinventer, mon frère. Gilbo, je te laisse la parole, mais tu vas te réinventer. On va tous devoir se réinventer. C'est une évidence, parce que là, on en est à Covid-19, mais qui nous dit qu'il n'y aura pas un Covid-41 et ainsi de suite. Donc, à un moment, pour les générations à venir, ce sera peut-être ancré le fait que, eh ben oui, ça ne se passe pas comme avant. Et tout le monde va être capable de s'adapter, parce que tout le monde a une force d'adaptation formidable, ce qui est déjà le cas, je trouve, ce qui n'a pas été simple pour tout le monde. Gilbo.
Ouais, bah quand tu arrives après tout le monde, bah je voulais dire ce que dit Fred là. Je voulais rebondir sur la Ligue 1 qui est quand même en fort danger, mais comme dit, bah voilà, donc Fred l'a dit aussi bien que moi, je pense.
Et aussi bien ou mieux? Certainement mieux, mais bon. Mais
j'aurais mieux fait. Bah, tu peux plaire. Et comme disait Platini, on lui a demandé bah, le foot est en danger. Bah, il dit non, le foot, il suffit d'être 22 et puis on joue. Hein. Mais c'est le foot business qui est en danger.
Hein, ouais. Le souci, c'est est-ce qu'on peut encore être 22? C'est-à-dire que…
Non. Et ben pas, donc, pas 22 adultes.
Voilà. Donc, nous, en ce moment, on ne peut pas. Alors, oui, le sport professionnel peut se le permettre parce qu'eux sont testés tous les jours. Nous, le sport amateur, on ne peut pas se permettre d'être encore 22 sur un terrain parce qu'on ne peut pas être testé tous les jours. Donc, voilà, la faille de San Andrea va peut-être être là entre le sport amateur et le sport professionnel. Et on va peut-être en souffrir.
Ça avait déjà été fait parce que déjà, Platini, il a beau avoir des défauts et compagnie, on a déjà mis des caméras alors, sur le foot qui ne servent à rien. Il y a déjà une cassure, c'est déjà plus le même sport. Donc, c'est pas le Covid. Il y a déjà les caméras. On a deux sports qui vont être
pareils. C'est vrai.
Ben oui. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Benoît. C'est vrai qu'on va s'adapter, il n'y a aucun souci. Enfin, le monde va s'adapter. La seule chose, c'est pour la génération qui est là, quoi. Ou qui fonctionnait sur un ancien modèle. Et ben là, quand il n'y a plus rien à rentrer, ça va faire très mal. Donc, faut pas que ça dure trop longtemps quand même.
Et moi, je me pose un petit peu la question des jeunes. Là. Est-ce qu'il ne va pas avoir aussi un moment, tu as des mômes qui ont 14-15 ans. Bon, il y aura une année où ils ne vont pas jouer. Bon, ça va bloquer. Enfin, il y a peut-être avoir un problème de niveau aussi à un moment.
Terrible pour eux. On a une génération qui est brisée, voilà. Il y a des générations brisées.
On n'en sait rien. Il y aura toujours peut-être.
Bah, peut-être.
On va pas empêcher les génies d'émerger, j'en sais rien, je ne sais pas. C'est plus
simple. Ouais.
Je crois qu'on ne sait pas.
Mais tout à fait, Lionel.
Oui, non, je pense, je voulais rebondir un peu sur la thématique que j'essaye d'avoir, c'est le pognon, parce qu'il va avoir forcément aussi des conséquences sur le pognon. Il y a les sponsors, les salaires, tout va être revu à la baisse. Certains vont moins perdre que d'autres, mais je pense qu'il va y avoir des incidences terribles. Les contrats vont être revus, que ce soit salariaux ou publicitaires.
Ça va financièrement, toi, en ce moment, Lionel? Parce que je trouve que si tu veux une petite rallonge, on peut s'arranger avec Joël. Hein.
Avec Jean-Marc,
pote à pote. Avec les chroniqueurs. Bon.
Et je peux quand même dire, parce que tu vois, des clubs comme tu parlais de Liverpool ou Rennes, par exemple, le plaisir de la Coupe de France quand ils ont gagné, ça a été de faire la fête. Bon, je n'ai pas trop participé, mais Liverpool, bah, c'est terrible, quoi, le truc, comme tu disais tout à l'heure. Ou Rennes en Ligue des Champions, bah, ça a été. Voilà, la fête a été gâchée, clairement, mais c'est ça qui est vraiment terrible.
Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Gilbo ou peut-être Fred, c'est-à-dire que la fête, elle est gâchée pour notre génération parce que c'est notre mode festif. Peut-être que les générations futures vont s'adapter à faire leur fête devant leur écran, en train de regarder leur télé tout seul, et ce sera pas la même chose. Mais qui te dit que eux trouveront pas du plaisir là-dedans? On peut pas dire ça. C'est l'espèce humaine va devoir peut-être s'adapter à cette à ces formes de maladies chroniques ou de virus chroniques.
Clairement, je suis content d'avoir du foot là pendant le deuxième confinement. C'est vrai que d'avoir du sport. Le premier confinement, on avait eu le débat, ça manquait. Moi, ça commençait à me manquer de ne pas avoir du sport.
Ouais.
J'aime bien les stades, mais j'aime bien la télé aussi.
Lionel?
Oui, peut-être le moment de lancer mon dernier quiz. Toi qui vois. Je voulais quand même avant parler aussi. Quelqu'un a parlé de ce matin là des différences qu'il y a entre les gains salariaux et publicitaires. Et il y en a effectivement des très très importants suivant les sports. Hein. C'est-à-dire que si on prend par exemple pour des mêmes gains, Federer, près de 90% c'est des gains autour de la publicité. alors qu'il gagne suffisamment déjà sur les tournois, mais n'empêche que c'est, on est près de 90%, alors qu'en boxe, par exemple, c'est le contraire, quoi. C'est 90%, c'est le salaire ou les gains.
Hors publicité. Arrête sur ce sujet.
Ouais, je vais juste vous poser la question. Combien de tournois a joué Federer cette année?
Alors, c'est des chiffres de 2019, Fred.
Ah ouais, d'accord, mais je te dis en 2020. Combien de tournois Federer a joué en 2020?
Je sais pas.
Un seul. Il a fait que l'Open d'Australie, d'accord, sur une jambe, puis il s'est fait opérer deux fois juste derrière, où il va en demi-finale, il ne joue pas de l'année. Hein.
Donc sur une jambe, ça fait un demi-tournoi, du coup. C'est ça. Ouais,
mais je pense que financièrement, ça va aller quand même pour lui, Federer. Même si
ouais, je pense, mais tu vois, juste, puis on va laisser Lionel reprendre son quiz. Mais tu vois, ce qui a été désastreux aussi par rapport à l'aspect Covid, c'est qu'il y a aussi des grands, enfin des champions qui ont pris leur retraite dans l'anonymat terrible. Tu vois, la génération dorée, Federer, Nadal, bah, je veux dire, c'était peut-être leur dernière année. Et ben, ils partent comme ça, alors qu'ils ont marqué quand même l'histoire du
Pas Nadal. Attends, Nadal,
attends. Il est temps qu'il laisse la main aussi. Là.
Ouais, Nadal, c'est pas faux, c'est pas faux.
Tu vas pas me dire qu'on en a eu assez aussi. Là.
Ouais, je suis assez d'accord, mais c'est moche de finir comme ça.
Il n'y a pas frustration, là. Je suis désolé.
Il
n'y
a aucune main.
Ça fait 20 ans qu'on se les tape.
Il n'y a aucune main à laisser, Gilles Beau. Il n'y a aucune main à laisser. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Un champion, s'il peut écraser le nouveau pendant encore 10 ou 15 ans, ben, il l'écrase. Et c'est ce que sont en train de faire Federer et Nadal. Bravo à eux. Bravo à eux. Fred, et ensuite, c'est Lionel qui enchaîne.
Non, c'est ce que, enfin, j'allais confirmer ce que tu dis. Effectivement, je vois pas pourquoi le champion il s'effacerait. Et en général, il s'efface quand il tombe sur plus fort que lui ou pour des raisons physiques, d'usure. Donc c'est.
Je suis d'accord, mais là on parle pas de ça. On parle du public et de son départ. Et je pense que Federer, bon, voilà, c'était l'année, Covid ou pas, où il allait sans doute marquer le pas.
Ouais, et ben dans la manière de s'effacer, je suis désolé mon Lionel, mais moi ça m'intéresse tout ça. La manière de s'effacer, je n'aime pas ce que fait Lavillenie par exemple par rapport à Duplantis. Lavillenie est en train, je trouve, de donner la première place à Duplantis. Et il dit regardez, il est formidable. Regardez, il est beau. Regardez, il est jeune. Regardez, il est plus fort que moi. Regardez ceci, cela. Et ben écoute, Renaud Lavillenie, soit tu tiens ce discours et à ce moment-là, tu arrêtes ta carrière qui a été la carrière d'un immense champion, soit tu vas essayer d'aller le battre. Mais tu peux pas continuer à te dire, après la carrière que tu as eue, eh ben voilà, il y a meilleur que moi et moi, je vais faire deuxième ou troisième. Ben non, t'as pas le droit de faire ça. Moi, t'es mon rêve, Lavillenie, et tu peux pas me casser ma médaille d'or en médaille de bronze. Elle m'intéresse pas, le bronze. C'est soit tu prends l'or, soit tu dégages. Fred.
Ouais, mais ça, c'est son ultime stratégie pour le pousser dans ses retranchements en finale des Jeux Olympiques et lui passer devant. Il sait très bien que l'autre est plus fort physiquement et tout, mais il est en train de l'endormir concrètement. Complètement. C'est tout ce qu'il tente. Et dans tous les cas, il est gagnant. Parce que s'il finit derrière, bah, il dira, vous voyez, je l'ai propulsé, etc. Puis si jamais il peut juste lui passer devant, bah, il dira, hey, t'as vu, petit gars?
Moi, je crois que c'est plus pour la promotion du sport qu'ils font ça.
Ouais, je pense. Non, le sportif, il va essayer de gagner quand il a ça en lui. Mais il va essayer.
C'est ça. Oui, t'as raison, Gilles Beau.
Quand même, on est potes, on travaille ensemble, tout ça. Ça fait un peu bizarre, je suis d'accord.
Mais c'est ça. Ben, moi, j'aime pas ça. Un champion, il veut gagner, point final. Deuxième, troisième, ça l'intéresse pas. Enfin, moi, c'est comme ça que je me représente un grand champion.
Mais toi, t'es pas un champion, attention.
Ouais, mais Lavillenie, il a envie de finir premier. Hein.
Mais ouais, c'est ça. Deuxième à la perche, t'es personne. Hein. C'est mon Lionel pour sa partie quiz.
Quiz. Attendu.
Merci, voilà. Messieurs. Alors, le petit quiz, là, ce matin, on a parlé des sportifs les mieux payés en 2020. J'élargis le débat. Je vais passer sur les sportifs les mieux payés.
Les moins payés.
Les mieux payés de tous les temps, cette fois-ci. Et juste pour vous dire que, par exemple,
moi aussi.
Il y en a 5, il y en a 5 qui dépassent en cumulé le milliard de dollars. Très impressionnant. Ma première question. Attention, ne répondez pas à la mauvaise question. Ma première question, ça va être dans le top 20.
Il y a trois mecs, on a la main levée déjà.
Non. Dans le top 20, quel est le sport le plus représenté? On va demander à Gilles Beau.
C'est le seul qui lève pas la main.
Le top 20, le sport le plus…
Le basket américain.
Le basket américain.
Le basket est deuxième, 4 sur 20. Benoît.
Ouais, c'est facile, c'est le golf.
Eh oui, tu as raison, mais c'est 5 sur 20.
Lionel.
Tu aurais dit quoi?
Bah, tu aurais pu rajouter la boxe, peut-être.
Eh bien, tu as tout à fait raison, parce que la boxe est également à 4 sur 20. Vous êtes très, très forts, messieurs. Ouais. Alors, maintenant, on va commencer à parler de...
J'ai gagné quand même.
Ils sont faciles. On va commencer par le numéro 1 de le sportif, le meilleur pied de tous les temps. Allez, Benoît n'en peut plus.
Alors, j'ai un doute entre les deux, mais j'ai premiers. Je suis Michael Tyson.
Je rejette totalement. Je ne sais même pas qui c'est.
Mike Tyson.
Hein?
Mike Tyson.
Alors, pas du tout. Gilbo?
Michael Jordan.
Michael Jordan, eh oui, c'est le numéro 1, c'est le basketteur avec presque 2 milliards de gains. Donc, allez, maintenant,
Benoît a perdu.
J'hésitais entre les deux, rigolo.
Le premier golfeur, Fred.
Tiger Woods.
Oui, c'est le premier golfeur, c'est le numéro 2 d'ailleurs. Alors, à noter qu'il y a 3 golfeurs dans les 5 premiers, c'est énorme, les autres, je ne les connais pas bien. Palmer et Nicklaus. Ah bon, pardon, j'aurais dû dire. Excusez-moi. Ouais, ouais. Fred.
Je vais te les donner, les gars. C'est Ballesteros, c'est Nicklaus.
Non. Pas du tout. Nicklaus,
Palmer.
Oui.
Palmer.
Et Palmer pour l'autre.
Bah, ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, Lionel.
Pardon, bah oui.
J'avais pas entendu.
Le premier. Alors, c'est facile, hein. C'est facile. Le premier en sport automobile.
Ouais, moi, c'est Schumi.
Oui, mais dis donc, je ne t'ai pas laissé la parole, moi, et je n'ai pas compris, là.
Ouais, parce que je suis patron, je te dis.
D'accord. Oui, c'est Schumacher, il est numéro 5 avec son petit milliard. Attention, je vais demander à Gilbo, premier footballeur.
Tu n'as pas posé la question, quoi.
En cumulé, alors attends.
Premier footballeur en cumulé.
Ronaldo.
Non.
Ce n'est pas Ronaldo. Fred.
Ah, Messi.
Ce n'est pas Messi. Benoît.
Ah, bah merde!
pas facile.
Ah ouais? C'est très facile.
Non, c'est moi, j'en dis comme vous. Hein.
Bah, c'est Neymar Junior.
Non, tout ça, c'est. Vous êtes dans les deux, les deuxième, troisième, quatrième. Mais c'est pas le premier.
Ah, le Ronaldo, le Brésilien.
Et non.
Bah, c'est Pelé. C'est Pelé à l'époque.
Ah non. Ah, vous coincez hein, sur celui-là. Hein.
Ouais. Bon.
Allez, je vous le dis, avec 800 millions de dollars cumulés.
Oh putain, je sais. Attends, c'est Beckham.
Ouais. C'est David Beckham.
Voilà. Oui, Benoît.
Non, je l'avais aussi.
Et là, je vais demander à Fred qui va se faire un plaisir de nous donner le premier boxeur.
Floyd Mayweather.
Eh oui, Floyd Mayweather. Avec enfin... 50 combats. Près de 800 millions de dollars en 18 ans de carrière.
Non, mais attends, Lionel. Lionel, tu es quand même spécialité. Toi, tu es un spé box, un pur spé box. Moi, toutes mes années, donc 90, 95, machin, c'est Tyson. Oui. 1 milliard pour combattre là, 900 millions pour combattre là, et ainsi de suite. Et c'est pas lui le numéro 1.
Non, c'est Tyson, numéro 2e boxeur. Deuxième boxeur, alors tu me diras, il est à 100 millions de dollars, on n'est plus à ça près, mais ça le met deuxième, avec, et le troisième, c'est De La Hoya. Non, c'est bien Mayweather.
Ah, et, d'accord.
Alors, très facile, Gilbo, premier tennisman.
Ah, premier, Roger, Federer.
Oui, à noter quand même que c'est le seul dans le top 20, hein, mais c'est oui, c'est bien sûr, ouais. c'est Roger. Voilà, je ne vous fais pas grâce du premier joueur de baseball.
Moi.
Ah bon? Vas-y.
Ouais, j'en connais qu'un, donc Sammy Sosa.
Non, Fred peut-être.
Barry McGuire.
Eh non. Alors je vous le donne, légende des Yankees de New York.
Ah, Alex... qui joue en première base? Qui est le joueur qui joue en première base?
Alex Rodriguez, je ne le connaissais pas.
Il est marié à une actrice, hein, c'est ça?
Ouais, il est marié avec…
Il était.
Ouais, ça va me revenir.
Bah, comme tout le monde, avec Eva Longoria, elle a fait tous les sportifs.
Non. Bah, pareil, une latino, cheveux longs.
Pas moi.
Jennifer Lopez.
Oh, ouais.
Messieurs, Messieurs, on va évidemment cette année qui va démarrer parce qu'on est sur la fin d'une année, mais bien sûr qui ouvre une nouvelle très belle année, on l'espère. On va faire nos pronos de l'année sur les événements. Et donc là, je note, hein, il n'y aura pas de « Ah ouais, mais moi j'avais dit ceci, moi j'avais dit cela ». Je note, donc n'allez pas chialer a posteriori. Tout ce que vous allez dire maintenant, ça va être répertorié. Donc on va faire forcément les grands événements. Je veux le vainqueur. C'est pas la peine de me dire ouais mais moi j'avais dit le finaliste, je m'en fous du finaliste. Je veux le vainqueur de la prochaine Ligue des Champions. Fred qui a déjà une idée.
Le Bayern de Munich.
hyper original mon Fred. Super, je note. Ok. Gilbo, t'as ton idée.
Paris Saint-Germain.
Ok, ah, c'est la grosse cote là. Lionel, tu as une idée?
Manchester.
Lequel?
City ou United?
Bah, l'autre est éliminé donc.
Ouais, c'est pour ça, lui dis pas.
C'est pour ça que je voulais tester son.
Lequel?
Et Ben Yvain, il va rester aussi très très modeste. Il va rester sur du Liverpool parce que moi j'aime beaucoup Liverpool.
Ouais, mais attends, on peut savoir hein, pour Lionel, c'est Manu.
Oui, Manchester, ouais, c'est ça. Ouais.
Non, mais lequel?
Oui, Manchester. Ouais.
Alors, on est sur les. Je vais vous demander si les JO ont lieu, bien entendu, si les JO ont lieu, qui va être le personnage français qui va catalyser toute la lumière. Donc, moi, je le sais déjà. Moi, je mise sur Teddy.
Moi, je mise sur Florent.
Moi, je vois les deux perdre.
Alors attends,
Manoudou, il va être battu.
Tu mets Flo. Moi je mets donc j'ai dit Teddy. Alors toi, Fred.
Voilà, moi je vois pas de Français briller moi.
Bah pff, ouais, super. Donc toi tu vas passer des JO à t'emmerder quoi.
Ouais. Mais j'ai peur que ce soit la fin de Riner. Et Manoudou, il y a un Américain qui est largement au-dessus actuellement.
Ouais. Manoudou, c'est très costaud de la part de Gilbo de tenter ça, mais c'est vrai que c'est une belle histoire. Moi, je ne prends pas de risque. Hein. Je dis Riner, pour moi, ça reste quand même le plus grand. Ouais, et puis, il va savoir se sublimer pour les JO. Donc, moi, je ne prends pas énormément de risques.
Vraiment, je vais dire comme Lionel, moi, Manchester.
Alors, moi, je tente deux choses.
Oui.
Kevin Mayer.
Ah bien.
Ouais, ouais, ouais.
Et Vincent Louis en triathlon.
Ah ouais, très fort.
Non, mais le triathlon, on s'en fout. Donc, Meilleur, c'est très, très bon choix, bon Lionel. Évidemment, ça fait partie des sports où malheureusement, il y a un peu la roulette russe aussi. On avait bien vu à sa perche à Doha, ça avait failli ne pas passer. Enfin, c'est dingue, ce sport-là.
Il revient très bien, là.
Donc, Lionel, t'es le meilleur.
Le plus fort du monde. C'est très, très bon choix. Je suis d'accord avec toi aussi.
T'es le meilleur, hein, Lionel. C'est le meilleur.
Excellent, Gilbo. Fred ?
Ah, oh, putain.
Bah, rien que pour défendre ce que je disais tout à l'heure, je vais mettre une petite pièce sur Lavillini s'il est en état de participer.
Oh ! Alors là, c'est costaud aussi. Hein.
Et moi, c'est je vais costaud. Mettre... Je peux remettre une pièce aussi ?
Ouais, Gilbo, ouais.
Sur deux cyclistes, Pauline Ferrand-Prévot et sur Alaphilippe.
Ouais, mais le souci de ma question, Gilbo, c'est qui va être la vedette française des JO.
Oui, bah,
et donc,
c'est ça.
Je ne suis pas sûr qu'une Pauline Ferrand-Prévot, elle va attirer toute la lumière. Et bien qu'elle soit une très, très grande championne, hein, même si elle gagne, eh ben, c'est pas, elle a pas l'aura médiatique d'un Teddy Riner ou d'un Florent Manoudou ou des choses comme ça. Tu vois.
Où tu as raison, Benoît. Voilà, tu as raison, Benoît, c'est que si un Riner gagne, c'est le sportif français absolu. Si Lavillini gagne, c'est la super histoire de l'athlétisme. Voilà. Et Mayer, c'est l'empereur de l'athlétisme s'il gagne. Quoi. Donc,
Flo Manoudou, c'est pareil, ça va faire du remous, si je peux m'exprimer ainsi.
Ouais, mais moins, parce qu'il n'est pas sur une distance dominante, il est sur le 50. S'il gagnait le 100 mètres, ouais, le 50.
Médiatiquement, il va écraser tout le monde.
D'accord, on est sur le. Alors, c'est pareil, hein, s'il a lieu, le championnat d'Europe de foot, vous allez quand même me donner un potentiel vainqueur. C'est Fred d'abord.
À France.
Ok. C'est Gilbo ensuite.
Alors, sachant que l'Euro, il y a quand même très souvent des surprises, on va tenter une petite pièce sur un. Allez, les Pays-Bas, tiens.
Ouais, Pays-Bas. Alors, Pays-Bas, ça gagne jamais rien, donc t'es peinard.
Ou le je peux dire le Benelux. Benelux.
Benelux.
Belgique, Pays-Bas.
Luxembourg.
Il n'y a pas un autre dans le... C'est nul de dire les Pays-Bas.
Et je mets une pièce pas très originale sur l'Allemagne.
Ouais, voilà. Je vois alors pas toi, vraiment. Et toi, t'as gagné petit, là, mon Lionel.
Et tu dis quoi, toi? L'Italie.
L'Italie, c'est difficile. Moi, je me mouille pas des masses non plus. Je vais dire les Belges. Un Belge, ça n'a jamais rien gagné. Il faut le savoir aussi.
Les Pays-Bas, c'est vraiment l'équipe qui tourne très bien en ce moment. Je ne sais pas pourquoi tu dis que c'est nul.
D'accord. Non, la France, je la vois pas. Pays-Bas, c'est nul. Allemagne, évidemment, ouais. Et moi, c'est vraiment très très bien joué la Belgique. C'est bien joué.
La Belgique, ils n'ont rien gagné.
Il me manque les mecs. Un dernier vainqueur 2021. Il me manque le Tour de France.
Oh là là.
Sachant que moi, l'année dernière, on m'aurait posé la question, mais à jamais, jamais, j'aurais dit un Slovène. Parce que déjà, je ne sais absolument pas où est la Slovénie. Et je ne savais pas que là-bas, on roulait. Non, jamais j'aurais dit un Slovène, il faut être honnête. Fred.
Roglic.
Ça a planqué, le mec. Ok, Roglic. Plus personne ne va mettre le petit Colombien. Vas-y, toi, Lionel.
Non, je remets Pogacar.
Ok.
Moi, je vais faire un ex-Sky Froome.
Ah bon?
Froome. Oh.
Là, t'es vraiment Baptiste, là. T'es vraiment couillu, là.
Parti en Israël, dans une belle équipe. Ça va, ça peut donner.
Et moi, je reste… J'avais envie de vous dire, je reste franco-français. Je vais tenter mon Thibaut Pinot. Mais ça fait quand même 5 ans que je tombe.
C'est quand même une grosse cote, là.
Et donc, je vais arrêter. Je vais arrêter. Les défaites encourageantes, ça mène de nulle part, comme je disais tout à l'heure au rugby. Donc, je vais sur du vainqueur également. Je vais, comme Fred, sur Roglic, qui ne se fera pas avoir deux fois.
Oui, il est 9h, là.
Voilà, donc on a fait le tour un petit peu de ce qui va se passer en 2021, messieurs, dames. Vous avez peut-être des avis différents derrière votre poste de radio. N'hésitez pas à appeler la station pour dire que certains chroniqueurs se sont complètement plantés dans leurs pronostics. N'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je pense très sincèrement que je vais aller au bout. On va finir, messieurs, avec le courrier justement des auditeurs. Comme disent à peu près tous les animateurs radio et tous les animateurs de télé, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, sachant qu'on n'en sait strictement rien. Mais toujours est-il que vous nous laissez beaucoup de courriers pour nous encourager. Donc, par exemple, Gilbo, tu restes le meilleur largement sur les coupures pub. Alors ça, c'est pareil, on ne sait pas trop comment vous pouvez le savoir, parce que pendant la pause musicale, vous ne pouvez pas l'entendre, mais toujours est-il que les auditeurs sont unanimes.
C'est moins vrai en visio, je trouve.
Fred, bravo, tu te rapproches de Benoît. Encore un petit effort et tu seras à son niveau, mais tu es quand même très, très impressionnant. Bravo et merci. Je trouve ça assez touchant de leur part. Je trouve ça assez touchant. Vous voyez juste les auditeurs, vous avez cette chance-là, vous avez une très belle analyse. C'est vrai que Fred est très bon. Bon, après, c'est vrai, il y a peut-être quelqu'un au-dessus. Bon, bref, je ne suis pas là pour me pencher là-dessus. Lionel, impressionnant, tout simplement. Merci. Alors là, parce qu'il m'écrive à moi, en fait. Il me dit, remerciez-le pour ses quiz. Remerciez-le parce que c'est toujours très court, c'est toujours intéressant sur un temps assez succinct. Et il ne s'épanche pas pendant des plombes et des plombes dans son jeu. Il n'y a jamais de longueur.
Voilà, voilà.
J'aimerais bien savoir comment ils sont.
Énormément là-dessus. Bravo pour ça.
Sachant qu'il ne passe jamais, c'est curieux.
Et moi, je vais te rajouter quelque chose, mon Lionel. Mais ça, c'est l'avis de l'animateur. L'avis de l'animateur, c'est que tu es quand même le seul qui bosse. Et je te remercie énormément pour ça.
parce que par moment, tu combles mes petits moments de blanc et c'est très important dans ce métier très difficile.
Non, mais moi...
de radio, bravo à toi.
Moi, enfin, j'ai le talent, je bosse, mais ça ne se voit pas. C'est ça le talent.
Bravo à l'animateur qui s'est toujours dompté une équipe de chiens fous. Bravo à lui, gros travail et d'une finesse dans l'analyse assez exceptionnelle. Donc bon, je crois, messieurs,
rien rajouter là.
Qu'on est dit. Je crois qu'on est gâté. Je vous attends évidemment, les gars, en 2021 pour continuer à me donner votre avis éclairé sur notre sport qui nous passionne, évidemment, qu'il soit français, étranger, féminin. Ah. Ou masculin. Mon cher Joël, je te rends l'antenne. Je remercie encore mes chers chroniqueurs. Je remercie tous nos auditeurs fidèles. Et on vous dit, bien sûr, à l'année prochaine. Et passez de très, très bonnes fêtes de fin d'année, bien confinées, comme il faut l'être. Salut à tous.
Un joyeux réveillon.
Salut à tous.
Non, c'était vendredi, le réveillon.
C'est vendredi
prochain. Et une bonne année, quoi.
Non, mais... okay.